Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission bimensuelle qui vous recommande 3 trucs cool en 20 minutes. Toutes les 2 semaines, on revient dans vos oreilles pour vous recommander des séries, des jeux vidéo, etc., etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, c'est malheureusement le dernier épisode de la session avec Sophie et Jeff. Ça va? Vous êtes pas trop triste? Vous tenez le coup?
C'est dur, c'est dur. Hein.
J'ai plus aucune raison de vivre là, c'est foutu.
Mais si, attends, Jeff, attends. Encore 20 minutes histoire de finir l'épisode. Après, tu fais ce que tu veux.
Fini l'enregistrement, s'il te plaît.
Oui, quand même, hein, parce que. Bon, merci en tout cas à vous deux d'être là. Je vais commencer tout de suite et me lancer avec une série dont je crois savoir que Sophie l'apprécie aussi. J'ai l'impression que tu en avais parlé dans un Season 1 à un moment. Je ne crois pas me tromper, mais tu vas me dire. C'est Gilmore Girls.
Ah bah
est-ce
oui,
que je me trompe?
Oui. Non, tu as bien raison.
Très bien. Alors en fait, Gilmore Girls, c'est une série qui, peut-être que certains auditeurs se diraient, mais de quoi il nous parle, Patrick? C'est une série pour filles, non? Alors d'une part, je vous montrerai du doigt et je secouerai le doigt en vous traitant de sexiste infâme, parce que série pour filles, série pour garçons, ça veut pas dire grand-chose. Mais surtout, je vais vous dire, bon, oui, un petit peu, mais il n'empêche, moi j'adore ce genre de truc. Et Gilmore Girls, c'est une série qui est, en fait, qui ne passe plus depuis, ça doit faire presque 10 ans, attendez, je regarde. Voilà, c'était 2007 qu'elle s'est arrêtée. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que visiblement, peut-être que Sophie, qui est plus au courant de ces choses que moi, va pouvoir le confirmer, il va y avoir une nouvelle saison au moins produite par Netflix, n'est-ce pas?
Oui, c'est en fait une suite de 4 téléfilms de 90 minutes.
D'accord, ok.
Donc, je disais qu'il y avait un revival qui était prévu quelque part.
Ouais, c'est ça. Et en fait, Gilmore Girls, c'est une série qui a duré, je sais pas, peut-être 10 saisons, c'était assez long. Je vais essayer de voir si je peux... Je sais plus combien d'épisodes il y a eu. Bon, bref, on s'en fout. C'était saison 7, donc il y a eu 7 saisons, voilà, puisque la fin, c'était la saison 7. Et c'est une série que j'ai vraiment aimée parce que c'est l'une des premières séries que j'avais vues où il y avait en fait une adolescente et des adolescents qui n'étaient pas débilifères, qui n'étaient pas montrés comme des imbéciles qui savaient pas trop ce qui était bien pour eux ou qui étaient. C'est vraiment une série où la fille. Alors bon, racontons l'histoire très vite, même si à la limite c'est pas super important. C'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui sont Lorelai et Rory. Elle s'appelle en fait. Ça résume très bien la série. Lorelai a eu sa fille à, je crois, 16 ans ou 17 ans, et elle a décidé d'appeler sa fille de son nom, comme les hommes peuvent appeler leur fils de leur nom, et ça devient Junior. Et ben là, c'est Lorelai Junior, donc elle s'appelle Rory, et c'est genre deux filles fortes, indépendantes, qui sont très jeunes. La mère a que 16 ans de plus que sa fille, donc elles sont presque copines, elles sont très très proches. Et Rory est une fille intelligente qui est vraiment intelligente au sens, elle réussit ses études, elle va dans une bonne université, etc. Et l'écriture est hyper importante aussi de cette série. C'est une série où il y a tellement de textes, c'est presque une série à la West Wing, quoi. On a l'impression que c'est Aaron Sorkin qui a écrit. Il y a tellement, c'est pas aussi malin dans l'écriture que Aaron Sorkin, mais ils disent, ils ont tellement de textes à apprendre. C'était l'une des qualités qui définissaient, en fait, des caractéristiques qui définissaient la série. Dans toutes les interviews, on leur disait, mais vous avez tellement de textes à apprendre, vous faites comment? Et ils parlent, ils s'arrêtent pas. Et c'est toujours intelligent. Quand je dis leurs dialogues sont intelligents, intéressants, drôles, c'est pas la plus grande série de l'histoire, mais et elle a peut-être un petit peu vieilli. C'est dans une petite ville des États-Unis. Il y a plusieurs autres séries qui ont été qui ont suivi, en fait, Gilmore Girls, parce que elle a eu tellement de succès. Et voilà, pour moi, c'est une série qui est mémorable parce qu'elle est à la fois, c'était l'une des premières séries comme ça qui mettait deux héroïnes au centre, et presque, enfin, c'était les deux héroïnes principales, et il y avait plein d'autres personnages féminins importants. Et en plus, effectivement, il y a cette intelligence de la série qui est rafraîchissante, quoi, ou en tout cas qui était rafraîchissante à l'époque. Je sais pas si je lui fais justice, Sophie, cette série.
C'est bien dit. Moi, je trouve que c'est une série assez feel good. Tu regardes un épisode, tu te sens un peu comme chez toi. T'aimerais bien que ces personnages-là soient tes proches, soient ta famille, parce que c'est génial. Et ce qui était au départ le gimmick un peu de la série, c'était que la fille était plus adulte que la mère, enfin plus mature que la mère, et ça. Mais finalement, la série a évolué après autrement. Mais j'ai trouvé que le duo mère-fille était fantastique, et t'avais qu'une envie, c'est que, enfin, moi, en tant que fille, t'avais qu'une envie, c'est que d'avoir toi-même cette relation un jour avec ta fille ou avec ta mère. Enfin,
Et c'est vrai que c'est comme dans ces excellentes séries où t'as l'impression de passer des bons moments avec des amis, et t'as envie de vivre avec eux, tu vois, t'as envie de regarder les séries parce que t'as envie de passer des moments avec ces personnages. Et il y a toute une galerie de personnages, bien sûr, qu'on va retrouver au fil des épisodes, mais c'est vraiment cette caractéristique, tu le dis très bien, Sophie, t'as envie de passer du temps avec eux, quoi. Donc, et je dirais, alors, je sais pas si ça a vieilli, je sais pas si tu l'as regardé depuis récemment, les épisodes de 2000, ils doivent dater un petit peu quand même, j'imagine.
Ouais, j'ai pas revu, hein. Non.
Mais bon, en même temps, c'est dans une petite ville des États-Unis, c'est le genre de truc un petit peu intemporel, quoi. Et puis c'est plus les relations qui sont importantes que l'histoire, donc je pense que ça passe. Et puis c'est le moment de regarder maintenant pour avant de voir les téléfilms qui vont arriver, j'imagine, à la fin de l'année ou en 2017. Donc
Ah oui, moi les téléfilms, je vais être comme une folle, là. Je vais être devant, j'attends que ça.
Ah oui, moi aussi. Je suis c'est vraiment l'une des séries que j'ai adoré dans les années 2000, quoi. C'était l'une de celles que je suivais avec le plus grand plaisir. Donc voilà, ça s'appelle Gilmore Girls. Oui, pardon.
Du coup, moi je connais alors absolument pas du tout, hormis de nom. Enfin, ça traite de l'histoire des personnages, j'imagine, mais il y a aussi, du coup, enfin, vu que c'est lié à l'adolescence, c'est aussi lié à l'adolescence, c'est un peu le thème de la série, ou
pas vraiment, en fait.
Disons que forcément tu vas avoir les personnages adolescents et le ce qui va se passer avec Rory, évidemment ça va être l'une des moitiés de la série, et puis il y a de l'autre côté, en fait, c'est aussi pour ça, je pense, que ça plaît à tous les publics, la mère va aussi avoir plein de trucs qui se passent pour elle a ses amis, sa mère à
ça,
elle,
son histoire d'amour aussi, enfin
voilà, c'est vraiment les deux c'est pas une série d'ado, en fait.
D'accord. Okay.
C'est à la limite autant une série sur la mère que sur la fille. Donc,
Ok, je vois.
Voilà. Et la mère, elle a.
Et leur rapport, etc.
Et leur rapport, et oui, exactement.
Oui, parce qu'elle, elle a 30 ans, la mère, finalement, du coup.
Ouais, c'est ça. C'est pas une mère qui a 40, 50. Elle est plus jeune que. Elle était plus jeune au début de la série que moi, je ne le suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc.
Et elle est sublime, accessoirement.
Oui, elle est toute. Mais. Je sais pas, moi, je les trouve toutes les deux attendrissantes. Oui. Tu vois, plus que. Je sais pas, c'est très attendrissant, cette série, en fait. Bon, voilà. Je vous laisserai vous faire votre propre avis. Ça s'appelle.
Non, il faut voir sur Netflix ce que ça peut donner. C'est vrai que les revivals, c'est très très à la mode. Ça part un peu dans tous les sens et ça part parfois dans le mauvais
sens.
Oui. Et là, je sais pas. Je le sens bien parce que quand même la Le truc, c'est que pour ce revival, en fait, c'est la créatrice de la série qui le voulait, parce que elle s'appelle Amy Sherman-Palladino, et en fait, elle a été plus ou moins virée de la série à la fin de la saison 6. Enfin, ça, c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas elle qui a fait la saison 7 qui était la dernière, donc elle a toujours eu cette espèce de frustration de pas avoir fini la série. Et elle a toujours dit qu'en fait, elle n'aurait pas fini la série comme ça, et qu'elle, dans sa tête, elle avait la fin. Et que la fin était... c'était 4 mots et elle avait les 4 derniers mots du script et personne ne sait quels sont ces 4 mots. C'est un peu le mystère. Et donc on a envie de voir, c'est elle qui reprend les rênes du truc et comment elle va gérer ça, parce que c'est un peu son bébé, et comment elle va finir son histoire.
Ah bah là, du coup, je suis encore plus curieux de voir ce revival. Et puis bon, de retrouver les personnages bien sûr, mais pour ces 4 mots. Bon, bah écoute, on verra tout ça.
Comme J.K. Rowling qui avait déjà la fin, le dernier chapitre d'Harry Potter.
Ouais.
Avant d'écrire les 7.
Ouais, ouais. Bon, Sophie, de quoi nous parles-tu ?
Alors, bah tiens, puisque tu parles de séries, c'est un peu mon domaine. Ben moi, je vais parler de jeux vidéo. Je vais prendre ton domaine. Tu vois, comme ça, au moins on va.
Elle est vexée, voilà.
On va faire un peu. Enfin, un crossover. Je vais parler d'un jeu vidéo qui s'appelle The Wolf Among Us. Donc, le loup parmi nous. Belle traduction. Qui est un jeu qui est pas très très fin. Qui date de 2013, hein, mais que, bon, moi, j'ai découvert que maintenant, toujours un peu à la bourre sur les jeux vidéo. Je suis pas à la pointe non plus, faut dire. Et c'est un vrai coup de cœur. Alors, c'est encore une fois, c'est pas un jeu normal, c'est une histoire aussi, c'est une histoire, c'est un point and click de Telltale Games, c'est la même équipe qui a fait The Walking Dead, le jeu, et là c'est vraiment une aventure, ça fait presque un roman graphique, comme on en a parlé dans l'épisode sur Watchmen, et donc ça se passe dans un monde fantastique, dans lequel, c'est le mot qui s'appelle Fable Town, donc la ville des fables. Et en fait, c'est les personnages des contes de fées qui ont voulu s'échapper dans notre monde pour échapper à un grand méchant, en fait. Et ils sont venus se dissimuler parmi les humains. Et pour pouvoir vivre tranquillement parmi les humains, ils ont recours à des enchantements qui les cachent physiquement, en fait, qui les transforment en humains. Et dans ce monde-là, donc ils vivent tous dans le même quartier, c'est un peu une espèce de quartier new-yorkais, un peu comme le Bronx, c'est pas un quartier super bien famé. Donc ces personnages-là vivent leur vie tranquillement jusqu'au jour où les personnages de fables commencent à être assassinés. Et donc on incarne, nous, le shérif de Fable Town, qui s'appelle Big B, qui n'est autre que le grand méchant loup. Big B, ça veut dire Big Bad Wolf, en fait. Et donc il est le shérif, et il va être chargé de retrouver le meurtrier de personnages de fable, qui c'est des meurtres assez sanglants, hein. Et donc pour nous aider à mener l'enquête, on va avoir l'aide de Snow White, qui, elle, travaille dans un département une espèce de département des fables, où elle a accès à plein d'objets et de grimoires spéciaux qui peuvent nous aider à progresser. Et donc le principe du jeu en point and click, c'est donc de cliquer, d'enquêter, de cliquer sur les indices laissés, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, et aussi d'interagir avec les autres personnages du monde des fables, sachant que chaque fois qu'on peut parler avec une personne, on nous propose 4 réponses possibles, et bah, il faut choisir la réponse, et la réponse peut...
C'est un peu comme tous les jeux Telltale,
voilà.
Un petit peu comme la même mécanique, les gens qui connaissent connaîtront, disons.
Oui, moi c'est une mécanique que j'aime bien, parce que ça... J'aime bien savoir, j'aime bien me triturer le cerveau et me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, comment ça, bien réfléchir aux choix effectués. C'est assez compliqué. Pour ce qui est du jeu, c'est pas le plus intéressant. Techniquement parlant, la manette, on la touche pas beaucoup. On regarde surtout l'histoire et on doit réagir rapidement pour répondre. Mais après, on a de temps en temps des scènes, des phases de combat, parce que c'est bon, le shérif, c'est quand même le grand méchant loup, donc il est castagne quand même, hein. C'est pas des méthodes, c'est des méthodes à l'ancienne, comme on dit. Donc il y a des QTE de temps en temps. C'est pas mon... Ça va, c'est facile, hein. J'arrive à les faire, je suis pas une grande joueuse, donc c'est largement faisable. Et effectivement, si on se plante dans les QTE, ben, on se fait tabasser. Et on peut être affaibli, voire peut-être mourir si on n'est pas doué. Parce qu'évidemment, on va se battre contre des monstres issus de nos pires cauchemars. Donc ça peut, un troll, ça peut faire mal, par exemple. Juste comme ça.
Moi, ouais, je confirme, sur Internet, un troll, ça peut faire très très
oui,
mal.
Oui, les trolls peuvent faire vraiment très très mal. c'est un jeu qui est en cinq épisodes. Et ça fonctionne vraiment comme une série. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que ça finit toujours sur un énorme cliffhanger, mais un truc, un gros 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 cliffhanger, on n'a qu'une envie, c'est de faire la suite. Et quand on fait l'épisode 2, il y a toujours un previously. Donc on est vraiment dans le... Et il y a un générique qui est absolument génial, ça se passe, je sais pas si je l'ai dit, mais plutôt années 80. Donc la musique qui va bien, le synthé, la boîte à rythme, les couleurs flashy, c'est il joue le jeu à fond. Sur les cinq épisodes, on croise pratiquement tous les personnages connus des contes et d'autres un peu moins connus. Donc c'est assez sympa aussi de les croiser, de se demander qui pourrait bien être. Bon, c'est pas très très difficile à deviner, mais il y a toujours des.
Ouais, parce qu'on les croise en forme humaine et puis.
Ils sont sous l'apparence humaine. Mais bon, par rapport à leur nom et par rapport à... Ils ont toujours des petits détails physiques qui font qu'on les reconnaît quand même assez facilement. À la fin de chaque épisode, quand on a fini l'épisode, il y a aussi un petit récap de nos choix et on peut avoir une comparaison avec ce qu'ont fait les autres joueurs. Donc ça, j'aime bien aussi, comme dans Life is Strange... Donc, savoir si on a fait le choix le plus populaire ou pas. Parce qu'on peut vraiment choisir des choses jusqu'à quand on se bat. Est-ce qu'on choisit de tuer ou non la personne ou le monstre contre qui on se bat? Est-ce qu'on choisit de brutaliser tel ou tel témoin? Il y a vraiment des choix stratégiques, même par rapport à l'enquête. Par exemple, si on a deux pistes qui sont devant nous, on doit vraiment choisir à quel endroit on va aller enquêter en premier. Et en fonction du choix, peut-être qu'on n'aura pas accès à certains indices. Donc, il faut vraiment bien réfléchir. Faut pas faire ça à la légère. Faut bien penser ses décisions parce que tout peut avoir une incidence. Et donc, voilà. C'est un jeu que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Le seul point, je dirais, négatif, c'est que il est en anglais. Et que en fait on l'avait acheté sur l'iPad et le truc c'est que sur l'iPad il n'y avait pas les sous-titres en français et comme ça parle beaucoup et que c'est un jeu où il faut vite réagir et vite répondre, ben c'est pas forcément évident pour tout le monde de réagir vite en anglais, hein.
Mais il n'est pas dispo en français sur iPad?
Non, en fait, il y a des patchs en sous-titre français, mais uniquement sur PC et Mac et pas sur la tablette.
D'accord.
Donc on n'a pas pu sur la tablette, on n'a pas pu l'avoir en français. Donc par contre, on l'a acheté sur Steam, ça marche avec le patch. Donc voilà, c'est vraiment le seul point négatif parce que pour le reste, c'est vraiment génial, c'est un univers différent et c'est à la fois drôle parce que bon c'est un peu décalé mais en même temps c'est assez sombre, hein. Il y a du sang mais c'est graphique comme j'ai dit donc c'est pas non plus c'est supportable on va dire.
Ouais non voilà, mais c'est vrai, tout le monde m'a dit que la série était enfin la série déjà c'est comme
oui,
tu
bah
sais
oui.
Plus tu l'as mentionné, c'est tiré d'un comics.
Non, j'ai pas mentionné, tu vois, j'ai pas lu
d'accord.
Le comics.
Et tout le monde dit que le comics est vachement bien, il date un peu, mais il est vachement bien. Et du coup, le jeu, tout le monde dit aussi, moi j'y ai joué, j'ai pas eu le temps, mais j'y ai joué un petit peu. Bon, j'ai pas continué, mais tout le monde dit que c'est super bien, quoi. Tout le monde apprécie, et donc il faudra que je m'y mette à un moment, quoi. Mais bon.
Ouais,
voilà.
Bah écoute, ça avait été recommandé par des auditeurs de Geek Inc. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous avaient dit que c'était vraiment bien et on n'est pas déçus de les avoir écoutés.
Ouais. Ok, et bah écoute, merci beaucoup Sophie. Et enfin, pour ce dernier positron de cette session de 4 épisodes, c'est Jeff qui a l'honneur.
Ah, tu mets la pression, là.
Oui, bah, j'espère que tu vas finir sur une note un petit peu joyeuse, tu vois, histoire qu'on sorte de cet épisode et de cette session le cœur léger.
Et non. Non, c'est un petit peu... je vais vous présenter une série qui s'appelle Making a Murderer. Et c'est un docu/série un petit peu particulier, mais moi quand j'ai regardé ça, ça m'a filé un petit peu comment dire, ça m'a un petit peu gâché ma journée. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué.
C'est sympa de partager avec les autres. Ouais. Merci Jeff.
Non mais en fait c'est très particulier. Ça ressemble à pas grand chose. Ça fait partie en fait de, selon moi en tout cas, d'un espèce de vent de mode de raconter une histoire en fait. De polar avec des faits existants. C'est quelque chose qui s'est passé avec le podcast Serial aux États-Unis par exemple, où on racontait en fait les péripéties d'une personne, mais sauf que cette histoire, ben c'était vraiment passé avec des vrais gens, etc. Donc Making a Murderer, ça raconte l'histoire de Stephen Avery. Cette personne a été incarcérée pour des faits d'agression sexuelle et a été libéré tout simplement grâce à un test ADN. Donc il a passé 18 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Oui, non, c'est un crime qu'il n'a pas commis. Donc, ce documentaire, il est en 10 parties. Il est sur Netflix. Donc, il est diffusé sur Netflix. Et c'est très particulier de se mettre à la place d'une personne et de se dire cette personne-là a été incarcérée entre guillemets pour quelque chose qu'il n'a pas commis, mais en plus de ça, de se mettre à sa place, de voir l'impact que ça a sur sa famille. Et j'ai envie de dire, le problème en fait avec cette série, c'est que ce que je viens de vous raconter, ces 18 ans passés en prison, cette sortie de prison, ça n'est que le début, parce qu'après il va aussi lui arriver des choses à ce Stephen Avery. Et c'est la série du malaise parce que ça soulève tout un tas de questions. Enfin, en tout cas, moi, chez moi, ça a soulevé tout un tas de questions sur, comment un système judiciaire fonctionne. Là, en l'occurrence, c'est celui des États-Unis. Mais, qu'est-ce qu'être un criminel? Qu'est-ce qu'être coupable? Est-ce qu'on a le droit de juger des gens qui sont, enfin, est-ce que je mettre le pouvoir d'enfermer quelqu'un, voire potentiellement de tuer quelqu'un, dans les mains de la justice et dans les mains de personnes, et pas un truc complètement pas équitable du tout, et vraiment quelque chose la justice, elle a vraiment, est-ce qu'elle a vraiment un intérêt ou pas? Enfin, ça soulève tout un tas de questions. Bon, après c'est peut-être un système judiciaire qui est peut-être pas le nôtre, parce que c'est bon, les États-Unis ont ça de particulier que les affaires et les cas qui s'y passent sont très médiatisés, et où l'influence du public et l'opinion publique a un véritable impact sur ce qui s'y passe vraiment. Je ne permets pas de juger parce que je connais pas cette culture et j'ai pas vécu pour avoir un avis dessus, mais Making a Murderer est vraiment une expérience à part. Selon moi, c'est très grisant de se dire c'est une histoire, c'est un polar, etc., sauf que c'est vraiment arrivé avec des vrais gens et des vraies situations où on se dit, mais enfin, il y a parfois des moments où on prend un peu de recul sur ce qui s'est passé et on dit, mais c'est un monde de fou, quoi. Ça s'est vraiment passé. Voilà, je sais pas comment présenter ça parce que malheureusement je peux pas parler de l'intrigue sans tout spoiler, ce qui serait un petit peu
mais là déjà je trouve que tu décris bien la chose. Moi je l'ai pas vu, mais tu décris bien tu donnes envie, quoi. Décris pas plus à la limite, parce que
voilà. Mais c'est vraiment une expérience. Voilà, si vous êtes vraiment intéressé par cet aspect polar, les enquêtes comme ça, etc., c'est une très bonne série policière. Et comme je le disais, ben ça fait un petit peu bizarre de dire ça, étant donné que qu'il y a vraiment des personnes. C'est pas une histoire, quoi. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Et tout le process, et en plus la réalisation aidant, puisque on est quand même du point de vue de Stephen Avery, et entrecoupé de passages où on a de la nature morte. C'est très mélancolique dans la réalisation. Il y a aussi un petit peu de on va dire qu'il y a de la musique aussi pour comment dire agrémenter les épisodes. Ça c'est vraiment une série à ambiance. Honnêtement, on se croirait vraiment dans la région dans laquelle sont situés les personnages, dans cette espèce de région un petit peu froide en plein hiver où on entre récits de la voix off et interviews de gens comme nous entre guillemets, puisque c'est des gens, enfin ça pourrait être ton voisin quoi, ça pourrait être la personne que t'as vue. Il y a des gens super malins, il y a des gens intelligents, d'autres qui sont complètement stupides, il y a des gens vaniteux. C'est voilà, je sais pas comment je pourrais expliquer plus ça de façon précise, mais voilà, je vous conseille vraiment de regarder.
Non, mais je crois que t'as pas
besoin.
C'est t'as bien expliqué les raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait avoir envie de regarder cette série. Donc, je pense que c'est un bon boulot. Moi, j'ai pas regardé. Il y a énormément de gens qui disent qu'elle est super bien. Et la raison pour laquelle je la regarde pas, c'est que j'ai peur que ça me déprime. Tu vois, c'est genre. Donc, est-ce que c'est quand même un truc. Enfin, si tu le disais un petit peu, c'est un truc à pas regarder si on veut choper la pêche, quoi.
Disons
c'est
que
pas Gilmore Girls, on va dire.
Non, c'est pas Gilmore Girls du tout. Mais en fait, ça devient problématique si on a un peu d'empathie, quoi. Voilà. Si on arrive à vraiment garder une certaine
donc,
distance.
Si t'as du sang de serpent dans les veines, bah ça voilà. Va.
Si vous êtes un être humain. Okay.
Si vous êtes un être humain moyen, ok, d'accord.
Non mais voilà, en fait, disons que si on a tendance à être très empathique, ça peut nous déprimer. Par contre, si on est vraiment quelqu'un qui aime le questionnement et qui est vraiment dans la démarche de se poser des questions, etc. Pour moi, ça peut vraiment être une très bonne expérience de regarder Making a Murderer.
D'accord. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup Jeff et merci Sophie. Je rappelle ce dont nous vous avons parlé aujourd'hui. Il s'agissait de Gilmore Girls, une série pour les fans de ce genre de série plutôt. The Wolf Among Us, un jeu vidéo là aussi pour les fans de ce type de jeu. Et enfin, Making a Murderer, une docu-série. Alors pour les fans de quoi? Pour les fans de la déprime.
Pour les fans. écoutez, si vous êtes psychotique.
Très bien.
Non, je plaisante, mais je dirais voilà, âme sensible, s'abstenir.
D'accord. Disons. Très bien. Eh ben merci. C'était une session qui est terminée maintenant. C'est fou. On a passé un moment incroyable ensemble. Une série de 4 épisodes, 2 mois entiers passés ensemble. Ça se termine. Je sais que vous êtes triste, mais.
Le temps passe tellement vite.
Le temps passe.
Bah, disons qu'on va pouvoir enfin sortir de la cave dans laquelle tu nous as enfermés.
Donc c'est en
on
même
est
temps,
un peu triste parce que syndrome
bunker,
de Stockholm, tout ça, etc. Mais on est quand même content. Hein.
Bon. Ouais, c'est mi-fig mi-raisin. D'un côté, c'est un peu triste parce que ça termine, mais de l'autre côté, vous avez pour pouvoir recommencer à vivre. Donc effectivement,
en plus, ouais, bon, ça va être un petit peu problématique. Nos parents nous ont appelés, etc.
C'est ça. Mais bon, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Les auditeurs, eux, par contre, sont inconsolables parce que ils savent bien que cette session est terminée pour de bon et que les animateurs qu'ils vont avoir pour la suite. Bah voilà, ça va pas être incroyable non plus. D'autant plus que en ce moment, je suis au Japon.
Revival, tu vois, ça sera moins bon.
Oui, c'est ça. C'est tout. Bon, là, c'était excellent. Mais en même temps, c'était tellement excellent sur 4 épisodes, ça va être dur à suivre, je pense. Donc, mais comme je le disais, je suis au Japon en ce moment, au moment de la diffusion de cet épisode, et du coup. Je sais pas comment ça va se passer depuis le Japon, si je vais pouvoir faire la session suivante tout de suite, est-ce qu'il va y avoir un petit peu de temps entre ou il y aura pas d'épisode, je sais pas, on verra. Mais en attendant, les auditeurs pourront aller vous retrouver, vous Jeff et Sophie, pour avoir un petit peu plus du bonheur que vous leur avez procuré pendant cette session de Positron, et dites-nous maintenant où ils peuvent aller pour ça. À commencer par, je sais pas, Sophie.
Alors, pour avoir un peu de bonheur, c'est ça. Pour nous voir, ben, on voit nos têtes très souvent sur Twitch. Donc, c'est GL_Geeking, c'est ça, Jeff? Donc, on a une très belle matinale présentée par Jeff. Good morning, zombies. On a des streams de jeux vidéo à peu près tous les jours de la semaine. Parfois, on voit la petite tête de Jeff. Parfois, on voit ma tête aussi, de temps en temps, en train de jouer à des jeux de détective. Le vendredi soir, en live sur Geeking pour parler de plein de choses, de tous les sujets geek en général. C'est à peu près tout.
Bah, il y a aussi l'émission que tu fais avec Kevin.
Ah oui, Café Série. Voilà. C'est pas en live, on n'est pas encore en live. Donc, nous, on est seulement sur YouTube, mais peut-être un jour, qui sait. Café Série, une fois par mois, que des séries de tout style, tout genre. Et puis à Twitter, donc moi c'est @season1 avec un 1.
Merci Sophie, Jeff.
Bon, je sais, chers auditeurs, que vous allez être tristes que je vais partir, etc. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Jeff_Quaderi. Je parais complètement pompeux, hein, c'est affreux. Non, finalement, c'est bien en fait que je m'en aille à cet épisode. J'ai pris la grosse tête. J'étais dans un podcast de Patrick Béja, maintenant c'est la fin, quoi. Donc oui, Jeff_Quaderi.
C'est à moi que tu vas donner la grosse tête en disant des trucs comme ça.
et après, pour tout le reste, ben comme disait Sophie, je vais pas faire de la retape. Geeking, tout ce qui s'y passe ou presque, je suis dedans ou soit devant la caméra, soit derrière, comme je disais. Et puis voilà, tout simplement. Twitch.tv/GL_geeking. C'est l'endroit où il faut aller pour nous trouver.
Magnifique, merci Jeff, merci Sophie. Pour ma part,
merci,
c'est
Not Patrick
sur Twitter et sur Facebook. Sur frenchspin.fr, vous retrouverez cette émission ainsi que le rendez-vous tech pour les actus tech et le rendez-vous jeu pour l'actu jeu vidéo, et Upload, où on vous recommande des conseils d'app. Non, on vous recommande des apps où on vous donne des conseils d'app, voilà. Et enfin, la liste de tous les positrons sur bit.ly/allpositrons au pluriel de Guillaume Vendée. Merci à lui de la maintenir. C'est tout pour cette session de Positron. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite. Merci encore Jeff et Sophie, c'était très sympa. Ciao à tous.
Bye bye.
Bye.
Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.